Europe 1, la libre antenne, Sabine Marin.
Bonjour à tous, bienvenue sur cette libre antenne écourtée pour la bonne cause. Je vous propose donc qu'on entre directement dans le vif du sujet. Il est tard, il fait enfin frais, ou en tout cas un peu moins chaud selon la région dans laquelle vous vous trouvez. Prenez donc ce temps pour vous, pour venir nous parler ou tout simplement venir écouter ce qui se dit sur cette libre antenne, où chaque soir nous partageons des moments de vie. Parfois, ce que certaines personnes racontent est pour nous juste anecdotique. D'autres fois, un mot, une réflexion, une réponse résonne curieusement en nous et nous permet de nous poser les bonnes questions et quelquefois de trouver les bonnes solutions. Si vous souhaitez venir prendre la parole ce soir sur cette libre antenne, c'est facile, vous faites le 39-21. Hassan et Amandine sont au standard et attendent vos appels, ils sont prêts à vous accueillir. Andreas Papadian, quant à lui, est à la réalisation, prêt à ouvrir votre micro. Si vous préférez juste écouter mais que vous avez envie de réagir par SMS, c'est facile aussi, vous tapez le 7-39-21. En commençant bien par le menu. Quel que soit ce que vous choisissez de faire ce soir, bienvenue dans cette grande famille qu'est la Libre Antenne sur Europe 1. Notez juste enfin que dimanche dernier, l'émission spéciale animaux ayant elle aussi été écourtée pour cause de foot, je n'avais pas pu passer à l'antenne certains témoignages vraiment intéressants et touchants. Je vous propose donc qu'on reprenne cette conversation autour de nos animaux dimanche prochain, toujours sous l'angle thérapeutique, si vous avez vécu des instants étonnants avec votre animal, s'il vous a aidé à tenir debout, s'il vous a même sauvé la vie. Venez m'en parler dimanche soir. Inscrivez-vous à l'émission par mail libreantenne@europe1.fr en précisant bien que c'est pour la libre antenne de dimanche soir. Merci beaucoup.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et dans un instant, le premier appel que je vais prendre ce soir est celui de Frédéric qui semble beaucoup douter de lui. On va en parler avec lui dans un instant. À tout de suite.
La libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue.
Merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Bonsoir aux auditeurs, pardon.
Avec grand plaisir. Alors racontez-moi un petit peu votre histoire de vie et surtout cette mauvaise image que vous avez de vous-même, j'ai l'impression.
Alors je me suis peut-être mal fait comprendre avec votre standardiste, oui, avec Amandine, qui était absolument charmante, un petit peu rapide, mais charmante.
Parce qu'on était tout près de l'antenne, en fait, c'est pour
Je sais bien, vous inquiétez pas. Mais en fait, ça fait un petit peu plus d'une semaine. Putain, je m'entends en écho.
Ah, moi, je vous entends très bien.
D'accord, ok. Bon, je vais essayer de faire abstraction. Ça fait une semaine à peu près, voire même plus, que j'essaie de vous joindre.
Oui.
Donc j'ai laissé plusieurs messages et j'ai eu des standardistes parce que en fait je me sentais seul. Mmh. Je me sens toujours seul et je me sens encore plus seul parce que samedi dernier c'était mon anniversaire. Je fêtais mes 41 ans, donc bon, bien sûr ma famille me l'a souhaité, mon chat aussi, le premier qui me l'a souhaité. On me sautant dessus dès le matin. Et en revanche, j'ai été très surpris et choqué, je peux le dire, de pas avoir reçu de messages des amis que j'avais sur Facebook. Pour pas le nommer.
Et pourquoi, d'après vous, il n'y a pas eu de message ?
Alors, ils m'ont dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas reçu la notification. Alors, je reçois toujours les notifications des anniversaires des gens et eux, ils n'ont pas reçu la mienne.
Alors, pour être très honnête, Frédéric, il m'est arrivé exactement la même chose il y a quelques années. Et je ne comprenais pas. J'ai eu aucun message. Et effectivement, pour une raison totalement inhabituelle ou inexpliquée, mes amis m'ont dit la même chose. Ils n'ont pas eu la notification parce que franchement, honnêtement, maintenant, c'est facile avec Facebook.
Oui, tout à fait. Et puis en plus, moi, j'utilise Facebook tout le temps, mais les anniversaires, je les ai notés sur un calepin.
Oui, mais alors ça, vous êtes assez rare à le faire. La majorité des gens ne prennent plus la peine de faire ça. Donc effectivement, s'ils n'ont pas Facebook, ils passent à côté.
Ouais, mais mes amis, ceux que je pense réellement comme des amis, je voulais avoir leur anniversaire sur un calepin pour savoir et pour éviter ce genre de désagrément. Mais je pense que je dois pas compter autant pour eux quoi, pour eux et pour elles.
Alors attention.
Et ça m'embête parce que. Ça m'embête aussi, excusez-moi de vous couper, je suis désolé. Ça m'embête un peu parce que dans le lot, je mets aussi une personne qui m'est très chère, c'est mon amour d'enfance, que j'aime profondément. Et ça m'a fait vraiment du mal qu'elle m'ait pas envoyé de message. Alors après, bon bah je suis obligé de la croire quand elle me dit que Facebook lui a pas envoyé la notification, mais bon, ça m'a quand même fait mal. Il a fallu quand même que je le rappelle, quoi. Il a fallu que je le rappelle, que je rappelle que c'était mon anniversaire pour que les gens me le souhaitent. Alors, je suis totalement débile d'avoir fait ça, mais bon, voilà, ça m'a fait mal, quoi.
Pourquoi vous dites que... C'est pour ça que je pense que vous avez une piètre image de vous-même. Parce que ça peut être, une fois de plus, ça peut être vraiment juste ça, quoi. Pourquoi est-ce que vous interprétez ça automatiquement comme « j'ai pas de valeur ou même pas » ?
Bon, parce que c'est un petit peu ce qui m'arrive depuis que je suis gamin.
Alors voilà, c'est là qu'il faut voir quelle partie de vous réagit et qu'est-ce que vous rejouez là comme scénario. Ce sentiment de rejet et de dévalorisation qu'il y a en vous qui vous fait immédiatement penser que c'est forcément ça?
Mais mes premières images où je me sens dévalorisé, c'est quand j'étais à l'école primaire. Ensuite, ça a été le collège. Alors le collège, ça a été encore pire parce que je me faisais racketter, je me faisais tabasser, tout ça. Après, ça a été l'armée où ça a été très difficile. Là où j'ai commencé à prendre confiance en moi, ça a été quand j'ai commencé à travailler en restauration. J'ai fait 20 ans de restauration et c'est vrai que ma timidité d'enfant et d'adolescent est partie quand j'ai commencé la restauration parce que je me disais que pour moi c'était comme une scène de théâtre.
Oui.
Et je jouais un personnage, c'était pas moi, c'était juste un personnage, et je faisais le show jour après jour. Et puis ça s'est... À cause de certains collègues, de certains patrons, ça s'est étiolé. Et maintenant, 20 ans plus tard, maintenant je suis aidant familial, je m'occupe de ma maman qui est très malade, qui a fait un AVC il y a 2 mois et qui avant déjà était très malade. Donc j'ai arrêté la restauration. Pour moi, c'est un mal pour un bien parce que je pouvais plus supporter les clients déjà. Ça c'est embêtant pour un serveur et puis aussi mes patrons, le personnel, tout ça, c'était plus possible alors que je faisais des efforts monumentaux. J'étais le premier à arriver au travail, j'étais le dernier à partir. Je me suis fait jarter très très salement, donc ça m'a fait vraiment vraiment du mal. Et à chaque fois que je me fais virer de toute façon ou qu'on me demande de partir d'un établissement, je mets beaucoup beaucoup de temps à m'en remettre.
Oui, parce que je sens chez vous une grosse grosse blessure de rejet. Et immédiatement, quand on veut pas de vous, c'est vous prenez ça pour un jugement sur votre valeur. Non pas sur ce que vous faites, mais sur qui vous êtes.
Oui, oui.
Et ça fait mal.
Bah oui, parce que déjà, moi, j'ai une piètre opinion de moi-même, même si je fais des choses super bien. Pardon, excusez-moi. C'est vrai que le fait de s'occuper de sa maman quasiment à 24, beaucoup de gens vous le diront... c'est pas facile à faire. Être aidant familial, c'est comme être soignant. Il y a des choses compliquées et je le fais et je suis heureux, je suis fier de le faire.
Ah ben voilà, j'allais y venir. Prenez conscience déjà de ça. C'est une très belle valeur, ça.
Oui, mais ça c'est la facilité parce que je redonne juste à ma mère. à ma maman ce qu'elle m'a donné pendant 18 ans. Vous savez, ma maman, elle nous a élevés, ma sœur et moi, pendant 18 ans, sans me roncher, sans rien. Quand j'ai été à l'armée, elle a recommencé à travailler. Elle est infirmière psy, enfin elle était infirmière psy, donc c'est un boulot très 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 dur. Mm-hmm. Hein. Et elle s'est jamais plaint. Elle faisait tout. Elle faisait parce que mon père il en branque pas une de la journée. Il sait pas tenir un balai. Donc c'était maman qui faisait tout. Et moi c'est juste le juste retour des choses pour moi, c'est aider ma maman comme d'ailleurs elle a aidé sa maman à l'époque quand ma mamie ne pouvait plus vivre seule. On l'a accueillie à la maison et elle a vécu jusqu'à la fin de ses jours pendant une quinzaine d'années, un truc comme ça, à la maison.
Ce qui est formidable, Frédéric, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est quand vous dites c'est facile et c'est normal. Mais très rares sont les gens qui font ce que vous faites. Tout le monde a été éduqué par une maman, et même ceux qui ont eu la chance d'avoir une maman formidable ne le font pas forcément. Pour vous, vous dites non, mais c'est facile, c'est logique et c'est naturel. Non ?
C'est naturel pour moi.
Pour vous, mais ça prouve que vous avez de grandes qualités ?
Oui, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas de souci, mais ça n'empêche pas que devant une jeune fille, une jeune femme que je rencontrerai, je lui dis, je suis aidant familial, j'habite chez mes parents, donc soit on se voit chez toi, soit on se voit à l'hôtel. Ben vous voyez, c'est compliqué quand même. Hein. Et je comprends la femme qui est devant moi. C'est moi, je serais à sa place, je courrais quoi, je partirais, je mettrais les voiles, tout ça quoi. Donc
je suis pas d'accord avec ça, Frédéric. Pourquoi ?
Vous
pensez pas que vous pourriez tomber sur une femme qui vous dirait au contraire qu'elle vous admire de faire ça et qu'elle comprend tout à fait que vous n'êtes pas chez vous,
oui,
mais chez votre mère ?
Pour l'instant, ça m'est jamais arrivé. Hein.
Et oui, parce que je pense que cette mauvaise image de vous-même, vous la dégagez forcément inconsciemment. Et donc, vous n'arrivez pas à trouver des gens qui... Je vais vous donner un exemple. Une expérience a été faite avec une femme, mais séparée avec un homme. Ils ont habillé une femme sans lui montrer, hein, à l'aveugle. Ils l'ont rendue superbe, maquillée, coiffée, habillée magnifiquement, en lui disant 10 fois, 20 fois, tu es sublime. Et ils lui ont demandé d'aller dans une petite ruelle piétonne. Quasiment tous les gens, et surtout les hommes, se sont retournés sur elle. Et puis ensuite, ils lui ont fait croire qu'ils l'ont démaquillée, qu'ils l'ont habillée avec des trucs très moches, qu'elle était mal coiffée. Ils lui ont dit « Mais ma pauvre chérie, qu'est-ce que t'es moche, qu'est-ce que t'es laide ?» Ils lui ont répété ça pendant une bonne demi-heure. Ils lui ont demandé de remarcher dans la même rue. Quasiment personne ne s'est retourné sur elle. Ce que l'on pense de soi, ce qu'on dégage comme énergie et comme vraiment, c'est tout ce qu'on dégage soi-même, ça change ce qui se passe en face, dans le regard de l'autre.
Je suis totalement d'accord avec vous. C'est ce que j'ai vécu en restauration pendant des années. Ça, il n'y a aucun problème. Et le seul souci, c'est que je ne fais plus de rencontres, à part sur des sites de rencontres, tout ça. Et encore, personne ne vient sur mon profil. Bref, c'est pas grave, hein, on s'en fiche. Mais ce que je veux dire, c'est que je reste quelqu'un d'avenant, de poli, d'aimable, de souriant quand les gens m'abordent ou quand j'aborde les gens. La boulangère, j'irai jamais de pas lui sourire. Le facteur, j'irai jamais de pas lui sourire. Ma buraliste, j'irai jamais ne pas lui sourire. C'est je fais ça naturellement, instinctivement. Seul problème, c'est que, comme vous l'avez dit, j'ai un manque de confiance en moi maintenant parce que je ne me sens pas, comment dire, légitime à avoir une relation avec une femme.
Quand vous étiez petit ou jeune, quelle est la situation dans laquelle vous avez été rejeté et par qui ?
Par ma mère.
Ah ?
Ouais. Ouais. Alors c'est tout bête. Non, c'est pas tout bête. J'avais tanné mes parents pendant des semaines et des semaines pour jouer au foot. au bout d'un moment, il m'avait pris les équipements de foot, chaussures, protège tibia, maillot, machin, truc comme ça. Et il m'avait inscrit à un club. Et le premier jour où je m'entraîne avec les autres enfants, il y en a un qui me prend en grippe. Je sais pas pourquoi. Il me prend en grippe et à la fin de l'entraînement, il vient et il me tabasse. Il me met misère plus bactère devant les autres joueurs de foot. On avait tous le même âge, hein. Et je suis arrivé dans la voiture devant ma mère. J'étais en pleurs. J'étais vraiment totalement détruit. Et je dis à ma mère, mais je puis y retourner, c'est pas possible. Et ce jour-là, alors elle s'en veut, hein, je sais qu'elle s'en veut, mais ce jour-là, ma mère m'a traité de pédé.
Ah.
Ce qui n'est pas non plus une insulte, c'est pas. Mais dans la façon où elle l'a dit, t'es une gamine. C'est tu t'es pas fait respecter, t'es une gamine et tu vaux rien du tout, quoi. Enfin, je l'ai pris comme ça.
Oui, bien sûr, pour un garçon qui vient réclamer de l'aide et du soutien, c'est
bien. Ouais, elle était déçue de moi et combien de fois je l'ai déçue après, ça n'y a pas de souci, hélas. Mais ça, c'est la chose qui m'a fait le plus mal dans ma vie. Tout ce qui est arrivé après, même tout ce qui s'est passé à l'armée, tout ce qui s'est passé dans mes différents travails, tout ça, c'est totalement différent, quoi. J'arriverai à m'en remettre, mais ça, oh là 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 là, mon Dieu, ça m'a totalement détruit.
Et ça, j'ai l'impression que c'est effectivement la blessure originelle, quoi.
Peut-être qu'il y en a eu d'autres.
Mais oui,
avant.
Parce qu'on on rejoue après des scénarios identiques dans la vie.
Et vous
êtes très souvent dans des situations de rejet, très très souvent dans ce que j'entends.
Ça m'est arrivé, oui, mais c'est contre mon gré, je pense, parce que je suis pas non plus un pervers, enfin je suis pas, comment dire, pas narcissique, comment dire.
Égocentrique.
Non.
Non.
Sadique. Je suis pas sadique au point de me faire souffrir jour après jour.
Mais on le fait jamais. On le fait jamais volontairement, Frédéric. C'est très inconscient comme fonctionnement. Il y a des tas de choses qu'on ne fait pas volontairement, bien sûr.
Mmh.
Eh oui.
Ouais. Vous savez.
Oui.
Oui, pardon, excusez-moi. Je sais que vous allez en venir là. Je suis allé voir mon médecin traitant il y a quelques temps de ça. Je lui ai demandé de me prendre un rendez-vous chez un psychologue ou un psychothérapeute. Et à chaque fois, j'habite à Bordeaux. Hein, à chaque fois, ils sont complets. Ils sont complets de chez complet. Ils prennent pas d'autres rendez-vous. Ça, c'est un petit peu embêtant. Mais j'aimerais bien. Alors. Déjà, premièrement, j'aimerais bien être psychanalysé, ça c'est sûr. Et puis en plus, ça m'est arrivé il y a quelques temps de ça, quand j'ai dit à ma mère, qui est, comme je vous ai dit, était infirmière psy, quand j'ai dit à ma mère que je voulais me faire psychanalyser, elle est partie dans une colère monstre. Comme quoi, j'en avais pas besoin, comme les psychanalystes, c'est des charlatans, tout ça. Elle est partie dans une colère noire. C'est un truc de fou.
Et pourtant, ça lui appartient pas. C'est à vous, ça, cette décision-là.
Je sais bien. Oui, non, mais c'est ce que j'ai voulu lui dire. Mais elle comprenait pas. Elle comprenait pas du tout. Et moi, j'ai envie de le faire, vraiment. Mais
j'ai envie de vous dire, qu'elle comprenne ou pas, là, c'est votre vie. Mmh. C'est à vous de la prendre en main, cette vie-là.
Ouais.
Vous ne pouvez pas attendre l'accord ou l'appréciation, l'autorisation des autres pour avancer, pour construire vie maintenant.
Je ne voulais pas son accord, hein, maman. Hein.
Vous auriez aimé qu'elle comprenne. Quoi.
J'aurais voulu qu'elle me dise « t'en as pas besoin hein. ». Mais même si c'est faux, juste me dire, ben t'en as pas besoin, mais pas me le dire comme ça aussi froidement et en tapant une crise, pas possible. C'est moi ça m'a choqué. Et ça m'a vacciné pendant quelques temps. Je vais refaire les démarches, il n'y a pas de souci. Mais ça m'a vacciné pendant quelques temps, quoi.
Oui, je comprends.
Bon, en ce moment, je suis en train de m'occuper d'elle parce qu'elle fait des séjours à l'hôpital assez souvent pour la cardio, pour la neuro, tout ça. Donc ça me prend quelques temps, mais je sais que j'irai, il le faut. Et pourtant, ça, quand j'étais ado, je me rappelle, j'ai fait une séance de psy, ça s'était très très mal passé parce que le psy était pas du tout à l'écoute. Il regardait sa montre, tout ça. Ça m'avait fait beaucoup de peine parce que bon, j'avais quand même des choses à raconter. Et je suis sûr que tous les psys sont pas comme ça, mais celui-là, il m'avait vraiment vraiment déçu.
Et là, une fois de plus, vous vous êtes senti rejeté.
Tout à fait.
Vous avez rejoué le même scénario, même chez le thérapeute.
Ouais,
attention,
tout à fait.
Attention Frédéric, d'abord si vous voyez un thérapeute, de bien travailler sur ce problème de rejet et de vous remettre vous au centre de votre vie, parce que dans tout ce que j'entends depuis tout à l'heure, vous espérez beaucoup des autres le bonheur, vous l'attendez des autres, l'approbation, la confiance, le bonheur, ça ne vient jamais des autres. Tant qu'on attend de l'autre ça, c'est signer un passeport pour le malheur.
Mais pourtant intérieurement je le sais ça. Je le sais, j'ai pas besoin des autres. Bon, si, j'ai besoin de mes parents.
Ah bah votre réaction par rapport à Facebook et l'anniversaire prouve l'inverse quand même.
Oui, tout à fait. Non, je voulais leur, c'était une piqûre de rappel pour qu'ils m'oublient pas.
À quel point les autres sont importants. Mais les autres sont importants, oui. Mais vous l'êtes aussi. Il faut que vous soyez important pour vous-même. C'est ça l'essentiel.
Ouais.
C'est là où je veux dire, remettez-vous au centre de votre vie, à vous, ça, c'est vraiment important. Faites le point sur votre histoire, vos points forts, vos points faibles, en toute objectivité, comme vous le feriez pour quelqu'un d'autre.
Ça va être facile. Hein.
Mais ça y est, voilà,
il y a plus de points faibles que de points forts.
C'est exactement ça qu'il faut éviter. Quand je dis objectivité, c'est pas de l'autoflagellation. C'est d'être capable de dire, voilà ce que j'ai fait de bien dans ma vie, voilà ce que j'ai fait et qui je suis, une fois de plus, ne confondez pas être et faire.
Ouais, mais vous savez, j'aurais voulu être médecin, j'ai loupé mes études, on était dans un quartier difficile. Alors, vous allez me dire, à chaque fois, je me plains des autres, et c'est peut-être vrai. Hein, je me plains plus des autres que de moi-même. C'est moi, j'aurais pu faire autre chose, tout ça. J'aurais pu être autrement, mais voilà, j'ai été maltraité, j'ai été racketté, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été volé, j'ai été tabassé, et ça m'a empêché de faire des études convenables parce que j'avais toujours la peur au ventre quand j'allais au collège. Et j'aurais pu être un excellent élève. Je peux vous dire, j'avais une mémoire d'éléphant, mais j'étais toujours en prise avec des peurs de récré, des peurs de sortie, de cours, des peurs de tout ça. Et donc,
j'entends bien, Frédéric, mais le deuxième passeport pour le malheur, c'est tous les j'aurais pu, j'aurais dû, si. Tout ça, ça ne sert plus à rien au bout d'un moment.
Ah bon, je sais bien.
On ne peut pas refaire le passé, mais on peut construire son avenir. Et on peut se positionner. Ah, alors, soit vous vous positionnez par rapport à ce passé en vous disant « je suis une victime » et vous l'avez été, je l'entends bien, sauf que... Soit vous continuez à l'être et vous laissez à tous ces gens du passé qui vous ont fait du mal le pouvoir de continuer à vous faire du mal au présent.
Ouais.
Soit vous vous dites « maintenant, c'est bon, ça va, ok, il m'est arrivé tout ça, qu'est-ce que j'en fais, moi, aujourd'hui ?» Et vous cherchez une suite à votre vie.
Ah mais j'avais commencé une belle suite en restauration. J'étais un excellent serveur, je peux vous assurer, Sabine.
Frédéric, la suite, c'est dans le futur, c'est pas dans j'étais. Vous me reparlez au
passé. Oui, je sais.
Non, j'étais mais si j'ai fait ça, c'est très bien, mais ça, c'est du passé.
Si ouais, mais pour l'instant.
Ah oui, mais si vous continuez à autoriser à toutes ces choses et ces gens du passé à vous faire du mal maintenant, vous n'arriverez pas à avancer. À un moment donné, ça s'appelle aussi lâcher prise et regarder devant. Pourquoi croyez-vous que dans une voiture, le rétroviseur est plus petit que le pare-brise?
Ouais.
On regarde ce qu'on a dépassé, on jette juste un petit coup d'œil et on avance. Sinon,
Donc, en fait, je suis et je resterai et je serai plus tard un excellent fils qui aide sa mère.
Ah, ben voilà une formule positive.
Voilà.
Attribuez-vous aussi vos qualités, pas que vos défauts.
Mais vous voyez, le seul problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui vous rabaissent. Moi, j'ai ma sœur qui me rabaisse par rapport à ça.
Et vous repartez dans un schéma de donner trop d'importance à l'autre.
Oui, mais bon, c'est ma sœur.
Mais si son jugement ne parle que d'elle, ce qu'elle dit de vous ne dit rien sur vous, ça dit des choses sur elle. Si ça ne vous convient pas, ne le prenez pas. Ça la regarde, ça sort d'elle, non, jusqu'à nouvel avis. Ça vient de sa bouche, de son esprit, de son cœur.
Ouais, mais bon, je l'aime quand même, c'est ma sœur, je l'aime plus que tout, quoi. Donc ça fait mal quand même.
Eh bien, vous lui dites, dans ces cas-là, vous lui demandez une explication. Pourquoi est-ce qu'elle vous fait du mal?
Je l'ai déjà fait, hein.
Et alors
c'est parti en cacahuète, ma mère est partie en live, mon père est monté à l'étage pour pas entendre ça. C'est un sujet vraiment, vraiment tabou, parce que pour ma sœur, il y a d'autres solutions au fait de ce que vit maman. Ça serait aide-soignante, ce serait une personne pour leur passage, une personne pour le ménage, machin. Mais ça coûte du pognon, ça. Et ça, ma sœur, elle n'arrive pas à le comprendre. Elle est en bonne santé, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Mais bon, voilà, quoi. Et moi, je ne laisserai pas ma mère. Ça, c'est pas possible.
Bah, c'est tout à votre honneur.
Je sais, Sabine, mais bon, c'est peut-être que j'arriverai à le dire à une fille un jour, ce genre de choses. Peut-être qu'elle comprendra. Sur les 250 000, peut-être qu'il y en a une qui comprendra.
Le jour où vous aurez un regard différent sur vous-même, vous tomberez sur des femmes qui auront un regard différent sur vous. Ça, j'en suis certaine. Vraiment.
Ouais. Ouais, mais bon, ça, c'est cette image, je me la traîne depuis l'enfance, donc ça va être...
C'est là où il va être important de vous trouver un thérapeute, et j'ai quand même du mal à imaginer que dans toute l'agglomération où vous êtes, il n'y a pas quelqu'un disponible.
Je vous assure, alors premièrement, je vous assure, hein, je vous mens pas du tout, j'ai appelé mon médecin, il a voulu prendre 3 rendez-vous, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, je me suis mis en tête de prendre des rendez-vous, j'en ai pris 8, ça n'a pas fonctionné, hein. À chaque fois, c'était complet. Donc après, je vais pas aller à Perpétuo. En plus, j'ai pas le permis. J'ai pas le permis. Je peux pas aller à 150 bornes.
Oui, il vous faut des transferts. Ben, ne lâchez pas. Vous allez finir par trouver un thérapeute.
Je sais bien. Je sais bien. Il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Déjà, j'ai une assistante sociale, comme j'ai le RSA, qui m'aide bien, qui est très 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 gentille, très compréhensible. Donc ça va, quoi. Et puis j'arrive à parler à des gens. Hein. Je suis pas totalement fermé. Je suis pas une huître. Il y a aucun problème. Et puis en plus, je vous parle à vous. Donc ça me fait du bien, quoi. Ça m'a permis de me lâcher. J'espère que je n'ai pas trop embêté les autres.
Mais on est là pour ça, Frédéric. On n'embête personne sur la antenne. On est là chacun pour parler librement de tout ça. Donc, si je résume, petit 1, vous vous battez pour trouver un thérapeute.
Ouais.
Petit 2, vous reprenez votre place au milieu de votre vie. Et petit 3, vous jetez un œil sur le rétroviseur, mais vous regardez devant. Hein, la vie, elle se construit devant.
Ouais. Oh, ça va être dur. Ouh là là. Je préfère m'occuper de maman. Au moins, je pense à rien.
Vous voyez, non, Frédéric, non. Occupez-vous d'elle, mais occupez-vous de vous aussi. D'accord?
Ouais.
Ah.
Bon, je vous remercie, Sabine.
Mais je vous embrasse.
Et c'est l'heure des infos.
Exactement. Vous connaissez Sabine.
Merci à vous et puis merci à tous les auditeurs. Pardon encore.
Merci de votre appel, Frédéric. Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Vous écoutez Europe 1 ? Il est minuit. Et c'est l'heure de retrouver Isabelle Millet pour le dernier point info de la soirée. Bonsoir à vous, Isabelle.
Bonsoir Sabine, bonsoir à tous. Et vous l'avez vécu en direct ce soir sur Europe 1, le rêve brisé des Françaises dans le mondial. Les Bleus ont été éliminés ce soir en quart de finale par les Américaines de 2-1. Elles se sont inclinées face aux tenantes du titre. La sélectionneuse Corinne Diacre relativise. On n'a pas à rougir, dit-elle. Il n'en reste pas moins que c'est une énorme déception, bien sûr, pour les joueuses. À l'image de l'avant-centre Eugénie Le Sommer.
Déçu, forcément, de perdre comme ça en quart de finale de Coupe du Monde, c'est difficile. On aspire à mieux et on voulait vraiment marquer le coup, les battre aujourd'hui. Malheureusement, on n'a pas réussi à le faire et voilà, ils ont été plus réalistes que nous. La seule satisfaction que je garderai de ce mondial, c'est qu'on a suscité l'engouement des Français et on a senti vraiment le public avec nous, les gens derrière nous, toute la France derrière nous et ça fait vraiment chaud au cœur. Je pense qu'on a gagné aussi le respect des gens, je pense. Maintenant, chaque Français sait que les filles peuvent jouer au foot et ça c'est une première victoire et c'est tout ce que je retiendrai de ce mondial en France.
Eugénie Le Sommer au micro européen de Julien Froment. Les Américaines affronteront l'Angleterre en demi-finale. Ce sera mardi prochain à Lyon. Il a fait plus chaud dans le Gard ou le Vaucluse cet après-midi qu'à Doha ou à Dubaï. Le record absolu de chaleur jamais mesuré en France a été battu 3 fois depuis la mi-journée pour arriver finalement à 45 degrés 9. On parle là de 45 degrés 9 à l'ombre, à Galargues-le-Montueux, c'est dans le Gard. Record absolu donc et risque maximal forcément pour les incendies. D'ailleurs, il y a eu de nombreux départs de feu cet après-midi liés à cette canicule. Écoutez François Lalanne, il est le sous-préfet du Gard.
On a eu au total 30 départs de feu simultanés dans l'après-midi, alimentés par un vent chaud, très puissant, qui a aidé à la propagation des flammes. Au total, on a engagé 6 canadaires, 2 trackers et un Daesh. On a à peu près 500 sapeurs-pompiers qui sont engagés sur le terrain. Et grâce à la mobilisation de ces moyens, on maîtrise en ce moment les feux qui existent encore sur environ 4 communes. À ce stade, il n'y a pas eu de personnes gravement blessées, pas de disparus. Il y a 3 blessés légers chez les sapeurs-pompiers et un blessé léger civil. Donc c'est surtout un bilan matériel. On a environ 500 hectares qui ont brûlé et une quinzaine d'habitations qui ont été détruites. On va bien sûr garder les pompiers dans le Gard en situation de surveiller les feux pour éviter qu'ils ne reprennent. Donc les sapeurs-pompiers vont rester durant cette nuit à pied d'œuvre.
Le sous-préfet du Gard, joint pour Europe 1 par Claudia Bertram. Les humains souffrent, le matériel également, cette canicule met les voies ferrées sous tension. Et la ministre des Transports aujourd'hui a conseillé carrément aux voyageurs de reporter leur départ. L'Assemblée nationale a adopté ce soir en première lecture le projet de loi sur l'énergie et le climat, justement, qui décrète l'urgence écologique et climatique et qui prévoit d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, mais qui déçoit les ONG et l'opposition. Les parents Vincent Lambert menace d'engager des poursuites pour meurtre en cas d'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation qui maintiennent en vie leur fils. La Cour de cassation a en effet déjugé aujourd'hui la Cour d'appel de Paris. Elle va dans le sens des médecins qui souhaitaient enclencher cet arrêt il y a un peu plus d'un mois. Pour maître Patrice Spinozzi, l'avocat de Rachel Lambert, la femme de Vincent, cette décision marque un point final à cette douloureuse affaire.
C'est la fin de ce litige. Il n'y a plus aucun recours qui puisse être fait, qui puisse suspendre l'arrêt des soins. Il n'existe plus aucun obstacle juridique à ce que l'arrêt des soins puisse être repris dès à présent. Tous les juges imaginables français et européens ont d'ores et déjà été saisis et donc, faute de juge, eh bien, il n'y a plus de recours qui puisse être aujourd'hui diligenté par les parents de Vincent Lambert. On peut faire preuve d'autant d'imagination que l'on veut. Nous sommes maintenant au bout de la route. Aujourd'hui, la décision qui est définitive, c'est celle de l'arrêt des soins. Elle a été décidée par le Conseil d'État, elle a été décidée par la Cour de cassation, elle a été décidée par la Cour européenne des droits de l'homme. Il n'y a plus de voie de recours utile, et ce, indifféremment de ce que les parents de Vincent Lambert pourront tenter de faire croire.
Maître Spinozzi au micro européen de Chloé Triomphe. Le Motilium, ce médicament qui est bien connu en particulier des parents pour lutter contre les nausées, le Motilium ne doit pas être donné aux enfants de moins de 12 ans, c'est ce que dit aujourd'hui l'Agence de sécurité du médicament. Il présente en effet, semble-t-il, des risques cardiaques rares mais potentiellement graves chez les plus jeunes. Le début du sommet du G20 aujourd'hui à Osaka, au Japon, en présence notamment d'Angela Merkel, la chancelière allemande qui va bien, c'est ce qu'assure son équipe, elle va assurer tous ses rendez-vous après sa nouvelle mystérieuse crise de tremblement à Berlin hier. Aujourd'hui, le sommet a été marqué par le premier tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine depuis près d'un an. Et puis, premier tête-à-tête tout court entre Emmanuel Macron et Jair Bolsonaro. Le président français a demandé à son homologue brésilien de ne pas sortir de l'accord de Paris sur le climat. La météo, Laurent Cabrol, on en parlait il y a quelques minutes. On vient de vivre un vendredi historique.
Oui, cette journée restera dans les annales. Effectivement, nous avons battu des records absolus de température à Galargues-le-Montueux, dans le Gard, avec 45,8 degrés. Demain, les mêmes températures seront quand même largement en baisse grâce à l'arrivée des vents marins qui vont rafraîchir un petit peu l'atmosphère. Dimanche, on change de vent. Le sud tire sa révérence. Voici maintenant les vents d'ouest océanique et donc des vents beaucoup plus frais. Nous aurons encore un peu de chaleur sur la façade est, mais partout ailleurs, la moyenne nationale s'établira autour de 30 degrés. Lundi, ce sera respirable en tout lieu avec 28 degrés de moyenne. Et puis mardi, mercredi, sur le sud, nuageux et orageux. Sur la moitié nord, ensoleillé, mais des températures tout à fait de saison.
La météo, signée Laurent Cabrol, et je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute d'Europe 1, toujours en compagnie de Sabine Marin, bien sûr, pour la Libre Antenne.
Europe 1, la Libre Antenne, Sabine Marin.
À passer ensemble sur cette libre antenne. N'hésitez pas à nous appeler pour venir prendre la parole tout au long de l'émission. Vous faites le 39-21 et vous tomberez soit sur Amandine, soit sur Hassan. Tous les sujets qui vous intéressent sont les bienvenus. Je vous rappelle aussi que comme chaque soir, vous pouvez participer à l'émission par SMS. Vous faites le 7-39-21 en commençant bien par le mot nuit. 39-21 donc par téléphone, 7-39-21 par SMS.
23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin. 23h, 1h, la libre antenne sur Europe 1. Sabine Marin.
Et suite au témoignage de Frédéric, on a reçu pas mal de SMS, notamment celui de Marc, qui rappelle que ce témoignage montre bien le problème de trouver un thérapeute. Et c'est vrai, vous avez raison, c'est de plus en plus difficile. Alors, ce n'est pas une solution miracle, mais je vous rappelle que de nombreux thérapeutes, y compris des psys, proposent des consultations par téléphone. Ça peut être déjà une façon d'attendre, d'avoir un rendez-vous. Renseignez-vous là-dessus, ça peut vous aider dans l'intervalle. Bonsoir Odile.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre antenne.
Merci.
Merci
de me prendre à l'antenne.
Qu'est-ce qui vous arrive? De quoi vous avez envie ou besoin de parler ce soir?
J'ai besoin de parler de ma relation avec ma fille aînée, qui a 41 ans, et j'ai une fille cadette qui a 37 ans. Et donc, ma fille aînée m'a fait interner le 3 juin dernier à la demande d'un tiers en psychiatrie, donc en milieu fermé. Elle a essayé 3 fois de suite, notamment le soir de la fête des mères. Elle n'a pas réussi. Le psychiatre des urgences de la ville où j'habite m'a laissé rentrer chez moi. J'ai un compagnon, mais je vis seule. Enfin, on ne vit pas ensemble. J'ai été internée contre mon gré, en fait. Et j'ai très mal vécu ça.
Mais attendez, ça veut dire que la troisième fois, il y a un psychiatre qui a donné son accord.
Voilà, 2 psychiatres.
Donc,
le médecin traitant, c'est-à-dire mon médecin traitant est en congé. C'est une dame, elle est en congé maternité. Donc, elle a un remplaçant qui ne me connaissait pas du tout, qui est venu me voir à domicile parce que j'ai des soucis physiques. J'ai une grave entorse à la cheville gauche. Donc, ça va se passer, hein, c'est pas grave. Et donc, je l'attendais pour ça. Ça a sonné à ma porte. J'ai demandé qui c'était. On m'a dit, c'est votre médecin traitant. J'ai dit, mais j'attends un monsieur. On m'a répondu, non, c'est moi. J'ai ouvert la porte et c'était ma fille aînée qui a forcé ma porte et qui est rentrée de force chez moi. Je lui ai dit, sors d'ici tout de suite, sinon j'ai ordre d'appeler la police. Et elle s'est imposée. Et le médecin traitant est venu un moment après. Elle m'a dit, je l'attends avec toi. J'ai dit, je veux le voir seul. Bon, et le médecin traitant qui me connaissait, enfin le médecin qui a remplacé ma généraliste ne me connaissait pas et est allé dans le sens de ma fille. Donc, il a fait un certificat que j'ai su ça après. Hein. Parce que moi, je voulais y aller de mon plein gré, en fait.
Mais pour quelle raison? Quel est votre problème?
Je suis bipolaire, en fait.
D'accord.
Pas gravement, mais bon, disons que le premier psychiatre que j'ai consulté après le départ de mon ex-mari en 1994 m'a toujours soignée pour dépression nerveuse. Et puis, ben, j'en ai fait 3 hein, suite à son départ. Mais j'ai quand même continué d'élever mes enfants. J'ai repris mon travail. J'étais puéricultrice à l'hôpital de ma ville. Donc, j'étais en disponibilité pour élever mes enfants. J'ai repris mon travail. Donc, j'ai fini de les élever seules. Elles avaient 16 et 12 ans. Donc, ma fille aînée, donc, ce soir-là, le soir de la fête des mères, ben, on m'a laissé rentrer chez moi. Et 15 jours après, elle a recommencé. Donc, bon, donc elle est menteuse parce qu'elle m'a dit que c'était le médecin traitant alors qu'elle ne m'a pas dit que c'était ma fille. Et je n'ai pas d'œil, donc j'habite en appartement, en rez-de-chaussée. Et j'ai voulu qu'elle parte, et impossible, elle s'est incrustée chez moi. J'ai beau essayer de lui parler calmement, elle s'est énervée. Enfin bon, je vous passe tout ça. Et donc, j'ai atterri aux urgences de la ville où j'habite, en Saône-et-Loire. Et là, j'ai attendu pour 3 ou 4 heures avant de voir un psychiatre, la psychiatre de garde, qui m'a dit, elle a fait sortir ma fille, elle me parlait avec moi en me disant, oui, je comprends que vous avez peut-être besoin de soins, que vous le reconnaissez. Donc, on va voir s'il y a de la place ici. Sinon, on vous enverra dans une autre ville de Saône-et-Loire. Donc, j'étais d'accord. Et finalement, elle a pris ma fille à part après, donc je n'ai pas su du tout ce qu'elle lui a dit. Ma fille ne m'a pas dit au revoir. Elle ne m'a pas dit au revoir avant de partir. Et on m'a dit, vous êtes transférée là-bas en service fermé. Je dis, mais attendez, moi je partais d'accord pour être hospitalisée, mais pas dans ces conditions-là. Donc j'ai atterri là-bas en service fermé pendant 18 jours.
Oui.
Allô?
Oui, je vous écoute.
Oui, pardon,
je suis votre parcours pas à pas.
Oui, merci. Et donc après, ma fille cadette n'a rien compris. Elles ont 4 ans d'écart, donc ma cadette a 37 ans. Elle n'a pas compris la réaction de sa sœur. Elle me dit, de toute façon, depuis que papa est parti, elle t'en veut.
Alors voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Première question, si vous me le permettez. Qu'est-ce qui se passe entre cette fille et vous?
Eh bien, elle me reproche qu'au départ de son père, donc elle avait 16 ans, que depuis le départ de son père, lui pourrit la vie. C'est l'expression qu'elle a employée. Je dis, ah bon, explique-moi pourquoi.
Oui, donc, en faisant quoi? Qu'est-ce qu'elle vous reproche concrètement?
Alors, elle me reproche en particulier d'avoir perdu le bébé que j'attendais quand mon mari est parti au bout de 3 mois de grossesse. Mais j'étais tellement dans un état lamentable sur le plan psychique et je mangeais plus. Enfin bon, voilà. Moi aussi, j'étais bouleversée par ce qui m'est arrivé. J'en ai voulu beaucoup plus à mon mari de tout ça que d'être partie avec sa secrétaire particulière, bien plus jeune que lui. Mais ça, bon, le temps a passé, j'ai pardonné. Je suis croyante, donc... Mais on n'oublie pas... Ça, je lui ai dit à ma grande. Et donc, elle me reproche tout ça, que depuis le départ de son père, je pourris la vie. Et ça s'est passé que je lui ai prêté beaucoup d'argent pour qu'elle puisse déménager pour X raisons. Et actuellement, je suis en train de chercher un autre appartement. Donc, je vais déménager bientôt. Donc, je lui ai réclamé l'argent qu'elle me devait. J'ai des reconnaissances de dette. J'ai des papiers à la banque qui prouvent que je lui ai donc prêté de l'argent. Une certaine somme. Et en fait, c'est tout parti de là qu'elle m'en a voulu aussi, que je réclame cet argent qu'elle me doit.
D'accord, donc il y a un gros conflit, un gros contentieux entre vous, mais en même temps, ce qui m'ennuie dans votre histoire, c'est qu'on ne peut pas faire interner quelqu'un de force, sans raison, et sans l'avis de médecin. Donc c'est quand même qu'il y a un problème à la base, vous avez besoin d'aide.
J'ai eu le médecin généraliste qui est venu, donc qui ne me connaissait pas, qui a fait un courrier, ça j'y ai vu après, une fois que j'étais hospitalisée. Dans les papiers qu'ils m'ont donné dans les 72 heures, ils sont obligés hein, de... Dans les 72 heures, j'ai vu aussi le juge.
Oui.
Il y a un juge qui s'occupe de ça. Et donc, j'ai vu... j'ai pas vu les papiers que ma fille a signés, mais en tout cas, elle a signé les papiers pour me faire interner. Ça, c'est clair. J'ai vu la lettre du médecin qui est venu me voir chez moi et la lettre du psychiatre des urgences. Je veux dire le nom, hein, de Mâcon en Saône-et-Loire. j'habite pas Mâcon, de Mâcon-Saône-et-Loire, qui m'a fait interner de force.
Est-ce qu'il y avait une justification dans ces papiers-là?
Ma fille a dit que j'étais folle, que j'affabulais par rapport à mon compagnon, qu'elle s'est permis par la suite, pendant mon hospitalisation, d'appeler mon compagnon et de lui dire des mensonges sur moi. Ça, je me l'ai dit récemment, parce que je l'appelais au téléphone, il ne me répondait pas. J'avais le droit au téléphone, même en service fermé. Je l'appelais au téléphone, il ne me répondait pas à mes appels, il ne répondait pas à mes textos. Je ne comprenais plus rien. J'ai juste une fois, il m'a dit, parce que je m'inquiétais du coup, il m'a dit, t'inquiète pas, tout va bien, j'ai beaucoup de travail. Et en fait, c'est ma fille qui a semé la zizanie entre lui et moi.
Qu'est-ce qui s'est passé après ces 18 jours alors?
Alors, au bout de 18 jours, ma fille cadette, donc, s'en est mêlée, et m'a fait rapatrier, on peut plus ça comme ça, m'a fait changer d'hôpital, et j'ai atterri, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis arrivée à la clinique, dans une clinique à Villeurbanne, ça fait partie de Lyon, parce que ma fille cadette travaille à Lyon, et elle m'a dit, maman, comme ça tu seras à côté de moi, et j'irai te voir tous les jours.
D'accord.
Et c'est ce qu'elle a fait. Donc j'y suis restée 5 jours et je suis partie à la demande. Donc là-bas j'étais en unité libre. Donc je lui ai dit, moi je vois pas pourquoi je resterai là. Il faut absolument que je cherche un appartement. Pendant mon internement, j'en ai raté un. Enfin bref, elle a compris mon problème. Elle m'a changé complètement de molécule parce que je suis en obésité morbide. Donc, il y a certains anciens médicaments que je ne peux pas prendre. Je ne sais pas si je peux les nommer à l'antenne.
Non, ça n'a aucun intérêt, ce n'est pas grave.
Oui, c'est ça. Donc, actuellement, elle m'a mis le matin des gouttes d'une nouvelle molécule, 10 gouttes le matin, 10 gouttes le soir, et avec un médicament qui s'appelle Portée Nuit, je ne sais pas si vous connaissez. C'est de la phytothérapie. Et j'ai de l'alprazolam.
Non, mais on vient de dire qu'on ne citait pas les noms des médicaments.
Ah oui, pardon. Oui, mais bon, j'ai un traitement léger, si vous voulez. Et je dors bien comme ça. Mais l'autre, j'avais décidé de changer de numéro de téléphone. Ce que j'ai fait, je l'ai donné à ma fille cadette, mon nouveau numéro, en lui disant, ne le donne pas à ta sœur. Pour l'instant, je veux faire un break avec elle. Et puis, au bout de 2 jours, elle m'a rappelé, ma cadette, en me disant, maman, c'est toi la maman, t'aimes tes filles, je le sais. J'ai dit, oui, j'aime ta sœur comme j'aime toi, avec vos qualités et vos défauts. Donc, je vous demande de m'aimer avec mes qualités et mes défauts, parce que personne n'est parfait ici-bas. Et donc, j'ai rappelé ma grande en lui donnant mon numéro de téléphone il y a 2 jours. Et là, elle m'a incendiée de sottises en me disant des énormités que je vous rapporterai pas ici, des gros mots, mais désagréables, pas possible. Et je lui ai proposé une médiation, elle veut pas, donc on peut pas l'obliger, 41 ans, elle est majeure, est vaccinée, comme je dis depuis longtemps.
Oui.
Donc elle veut pas, comment on appelle ça, elle veut pas qu'on essaye de se voir ou de se parler au téléphone, sans s'énerver, elle veut pas de rapprochement avec moi.
Mais ça c'est sa liberté et son choix, elle.
Bien sûr, bien sûr. Mais moi, ça, ce que je disais à ça, ça m'attriste beaucoup tout ça, quoi.
Mais en même temps, vos liens sont tellement toxiques que quand vous vous voyez, ça vous fait du mal.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Donc c'est comme si à chaque fois vous alliez vers un mur et que vous tapiez la tête contre le mur. À un moment donné, il faut peut-être laisser le mur de côté, quoi.
Ben oui, c'est ce que j'ai appelé une amie tout à l'heure parce que j'étais tellement mal ce soir. J'ai craqué un peu. Bon, ça m'a fait du bien d'un autre côté de pleurer, mais elle m'a dit, mais laisse-la de côté, ne l'appelle pas.
Ben, elle a raison, vous êtes fragilisée par ce côté dépressif et par cette pathologie qui n'est pas évidente à gérer parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas et que c'est épuisant physiquement, c'est épuisant psychologiquement.
Tout à fait.
Et pour pouvoir tenir debout, il faut vous entourer de choses et de personnes qui vous font du bien.
Ben
à partir
voilà,
du moment, je ne suis pas là pour juger qui a raison, qui a tort dans cette histoire, parce que là, on n'a qu'une version. Et puis,
Après tout, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça vous fait du mal.
Oui,
donc,
tout à fait.
Quand un lien est toxique et qu'il nous fait du mal, en tout cas, momentanément, il vaut mieux le couper.
Oui.
Si vous avez la chance qu'avec votre autre fille, ça se passe plus calmement, si vous avez la chance d'avoir des amis, recentrez-vous sur ce qui vous fait du bien, vraiment.
Voilà.
Et quand vous serez plus solide, à ce moment-là, vous pourrez peut-être l'affronter différemment. Mais là, ça fait beaucoup pour vos petites épaules.
Bah, oui, comme vous dites.
Ben oui, vous avez besoin de choses positives pour vous reconstruire.
Voilà. Mais j'allais bien, j'allais bien sur le plan psy. Physiquement, bon, bah, j'ai eu une grave entorse le 24 avril, mais ça va se réparer. Le physique, c'est souvent ce que je dis, le physique, bon, des fois, c'est très grave. Mais le psychisme, c'est très, très difficile à gérer.
Bah bien sûr, d'autant que cette pathologie-là, le problème, c'est que du jour au lendemain, vous pouvez aller effectivement très bien et d'un seul coup, aller très mal. Et c'est épuisant à gérer, ça.
Oui, c'est tout à fait le terme, vous avez raison.
Donc, protégez-vous, préservez-vous, faites vraiment attention à vous et mettez de côté les gens qui vous font du mal. Et si c'est votre fille, eh bien tant pis, c'est votre fille, mais pour l'instant, mettez-la effectivement de côté. Vous ne pouvez pas supporter ça, c'est trop.
Non. Et j'ai une assistante sociale qui est très, très sympathique, qui m'aide sur le plan financier. Enfin, oui, c'est sur mes finances. Enfin, je suis capable de les gérer, mais elle m'aide. Mmh. Et je lui ai confié tout ça. Elle connaît ma fille. Parce que ma fille, je dis ça, parce qu'elle est assistante sociale de secteur.
Oui.
Donc, elle gère des problèmes toute la journée. Alors, est-ce que c'est... Je ne sais pas. En plus, sa sœur est d'accord. Hein. C'est elle-même qui a employé le terme. Parce que ma fille cadette, l'année dernière, elle a fait une grave dépression postpartum pour sa deuxième fille. Mmh. Donc, elle a aidé au maximum. Et elle s'appelle Lynn, on va l'appeler Lynn. Elle m'a dit, mais tu sais, je crois que ma sœur est jalouse de moi parce que tu t'es bien occupée de moi pendant que j'étais malade. Ben, je me suis surtout occupée de mes deux petites filles, de 6 ans et de la dernière, elle avait 6 mois quand elle a fait sa dépression postpartum.
Mais vous savez, quelles que soient les raisons, valables ou pas valables, on s'en fiche pour l'instant, ce qui compte, c'est vous.
Oui.
Et vous ne pouvez pas supporter son comportement. Quelles que soient ses raisons à elle, quels que soient ses choix, vous ne pouvez pas les supporter. Et vous n'avez pas à les supporter non plus.
Non.
Pour le moment, dites-vous que c'est pas forcément définitif, mais vous avez besoin, vous, de tenir debout.
Voilà.
Et là, à chaque fois que vous êtes confronté à elle, c'est comme si vous preniez un mur, quoi.
Exactement.
Et ça fait trop mal, c'est pas possible, ça, pour le moment.
Mon tempérament, enfin, j'étais religieuse, j'ai 66 ans, donc il y a très longtemps de ça. Mais à l'époque, c'était... On frappe la joue droite, tant la joue gauche, quoi.
Oui, bon, on va peut-être changer le concept. Hein. je sais pas vous, mais moi, c'est un concept qui me plaît pas tellement.
Ben non, maintenant, je me dis que non, quoi, je me laisse plus faire. C'est vrai que j'étais un peu comme le monsieur qui est intervenu avant, que j'avais pas confiance en moi, tout ça. Mais la vie m'a appris à savoir me défendre. Enfin, sans parler d'atteinte physique, mais à savoir me défendre et savoir ce que je veux et ce que je veux plus.
Et ben voilà.
Voilà. Mais bon, c'est facile à dire, mais c'est
Bien sûr que c'est difficile à faire, mais c'est déjà bien d'en être consciente. Et il y a des très gentils messages qui arrivent pour vous. Il y a Sébastien qui dit... Odile, trouvez l'apaisement en vous-même, vous êtes votre meilleur médicament, pas besoin des autres. Et Thibaut qui dit, j'entends une belle âme avec beaucoup de lucidité, d'amour et de courage, prenez soin de vous.
Oui, bah, du courage j'en ai, mais là c'est vrai que je suis effondrée parce que, moralement, parce que je ne la comprends pas. Quoi. Je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça.
Mais vous savez, quelquefois dans la vie, quand ce genre de problème arrive, il y a des combats qu'il ne faut pas mener, ou en tout cas pas tout de suite. Vous n'avez pas la force de mener ce combat-là maintenant. Alors, vous mettez ça dans une boîte, de côté, et vous vous retapez, vous, d'abord.
Non. Hein? Mais j'ai mon médecin traitant, donc elle est partie en congé maternité, mais j'ai recontacté mon psychiatre que j'avais l'année dernière, j'ai changé entre-temps pour des raisons personnelles. Il ne peut pas me prendre tout de suite, mais il me prend au téléphone. Ben voilà, et il m'a envoyé une généraliste qui va me suivre le temps des vacances, là.
Ben c'est
parfait. Il va me reprendre en septembre.
C'est parfait. Vous êtes votre priorité pour le moment, Odile, et c'est normal. Oui. Donc, préservez-vous de tout ce qui vous fait du mal.
Voilà.
D'accord ?
Oui. Je vous remercie, Amine.
Je vous embrasse. Reposez-vous bien et prenez bien, bien soin de vous d'abord.
Merci Sabine.
Merci
Bonne
de votre appel.
Bonne continuation de votre émission, je les écoute souvent.
Merci de votre fidélité, je vous embrasse très fort.
Moi aussi, au revoir.
La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin. La Libre Antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et j'accueille maintenant Viviane. Bonsoir Viviane.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
De quoi est-ce que vous voulez me parler ce soir ?
Alors, je veux vous parler, je voudrais être éclairée sur un point de ma vie qui me perturbe un peu. Mmh. En fait, je n'ai pas été vraiment élevée avec mon père. J'ai eu une enfance tumultueuse, Dieu merci, j'ai pu, quand j'ai grandi, pouvoir payer de ma poche pour voir les psys, pour m'aider à m'en sortir. Mmh. Et puis, accepter des choses. Je me suis dit, j'ai connu des moments difficiles dans mon enfance, mais ça ne doit pas m'empêcher d'avancer.
Pourquoi est-ce que votre père était absent?
Parce que c'était une tête en l'air.
Okay.
Il avait. Voilà, donc j'ai vécu une petite vie assez dure quand même. Mais quand j'ai pris conscience en tant qu'adulte, je suis retournée vers lui. Je savais que c'était mon père. Hein. Je n'étais pas née dans les choux, donc j'avais une très bonne relation avec lui. Bon, je pars en vacances, je vais le voir, j'ai plaisir à aller le voir, il n'y a pas de souci. Sauf que hier, j'apprends qu'il a perdu sa femme, ça fait 2 mois. Bon, mais j'étais au courant, je m'en inquiétais et tout. Comment ça va, la suite et tout. Bon, mais ça va. Et puis hier, j'apprends qu'il a pris un billet. Aller sans retour pour venir s'installer chez moi.
Comment est-ce que vous apprenez ça?
C'est un de mes oncles qui m'appelle pour me dire qu'il a fait ça. Il, en disant cela, il dit c'est pour lui faire une surprise. Pendant qu'il sera au travail, je vais lui cuisiner des choses, je vais prendre soin d'elle et tout. Bon, d'accord, moi j'aurai bientôt 50 ans. À mes 50 ans, je ne sais pas si j'avais prévu ça.
Mais attendez, il a les clés de chez vous?
Mais non, mais ils m'ont demandé est-ce qu'il peut venir. Je vais pas. Il a déjà pris un billet, je ne vais pas lui dire d'aller dans la rue quand même. Je suppose qu'il y a assez de personnes dans la rue pour ajouter un autre.
J'entends bien, mais entre venir quelques jours et s'installer, il y a quand même un gap. Hein.
J'entends bien. Mais qu'est-ce que je fais? Je lui dis de changer de billet.
Vous faites ce que vous avez envie de faire, me semble-t-il, non? Qu'est-ce que vous voulez?
Oui.
Comme vous dites, vous avez 50 ans, vous êtes adulte. C'est quand même
oui.
un peu fort de s'imposer comme ça chez vous.
Exactement. Donc, après, ses frères l'ont raisonné. Ils lui ont dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu aurais dû lui demander si c'était possible, mais pas t'imposer. Le mal était déjà fait. Donc,
mais là, à l'heure où on se parle, il est où?
Il est encore aux Antilles.
Et ça ne lui viendrait pas à l'esprit de vous appeler pour parler de tout ça?
Non.
C'est un peu énorme quand même.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'il veut d'après vous?
Alors, moi, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit... c'est quoi le problème exactement? Parce que je dis pas, vous savez, je suis pas à faire des reproches, tu t'es pas occupé de moi et tout, hein, c'est pas du tout ça. Me dit ouais, je sais que tu es ma fille. Je me suis toujours dit si je devais mourir, je veux mourir dans les bras de ma fille, auprès de ma fille. Oui. Ah d'accord.
Oui, il est en train de mourir là?
Mais non, pas du tout. Donc, je me dis, waouh, c'est quoi ça? C'est quoi? À mes 50 ans, là.
Mais son but, c'est quoi? C'est de vivre chez vous à temps plein et d'y rester?
Faire passer quelques temps. Peut-être faire 2-3 mois et puis retourner aux Antilles. Mais il a envie, il vient de perdre sa compagne, donc il a envie d'évacuer. Mmh. Donc il a pris un billet, puis il s'est dit, bon, ben, je vais chez ma fille.
Mais que lui ait envie de tout ça, je comprends bien, mais vous, vous existez aussi?
Oui.
Et même oui. Matériellement, chez vous, c'est comment? Est-ce que c'est...
Ben, je serais amené à réaménager, parce que la chambre où je vais devoir le recevoir, eh ben, ça me servait de dressing, donc... J'avais pas du tout prévu ça, donc je suis pas non plus je suis pas attaché au matériel, hein, c'est pas du tout, c'est le principe
qui me
perturbe un peu.
Mais qu'est-ce qui vous empêche de lui dire?
Parce que j'ai, en fait, pour nous, quand on est que ce soit d'origine antillaise ou autre, hein, je pense que j'ai tellement gardé les choses enfouies. Et puis un respect, un certain respect, j'aime pas blesser. Et puis je me dis, bon ben, ça passe par le respect que j'ai. Je veux pas dire à mon père, bon, mais tu viens pas chez moi. Non, je me vois pas. Pour moi, c'est irrespectueux. Donc... J'ouvrirai ma porte, mais je sais que ça va... Après, quand mon oncle me l'a dit, j'ai dit... Il était à côté de mon père, hein. J'ai dit, bon, mais t'as intérêt à le... bien le cuisiner, là, de façon à lui dire, pas de va-et-vient chez moi, personne ne vient, mes frères et sœurs, mes demi-frères, personne chez moi... Parce que là, j'ai une vie au calme. En fait, ce qui me dérange, dérange, est-ce que c'est le mot, j'en sais rien. Je vois que je me suis reconstruite, avec des amis ou bien avec des thérapeutes, hein. Et puis, curieusement, vous savez, quand vous étiez enfant, vous aviez besoin de vos parents pour avancer. Et puis, vous ne les avez pas eus. Et puis, bientôt, j'aurai 50 ans, et puis ça m'arrive, ben ça remue un peu. Au point qu'hier soir, j'ai fait des cauchemars, j'étais pas bien.
Oui. Eh oui.
J'étais pas bien.
Vous me parliez tout à l'heure de respect vis-à-vis de lui, ce que je trouve très bien, mais est-ce que, en tant que petite fille, c'est un papa qui vous a respecté, vous?
Alors, respect. Vous savez, je ne pense pas qu'il m'ait manqué. Alors, le fait qu'il ne se soit pas investi plus que ça, vous savez, il était un peu tête en l'air, hein. Moi, c'est un peu l'analyse que j'ai faite de sa vie. C'est ce que je retire. Donc, je ne sais pas si je peux dire qu'il ne m'a pas respecté. Je crois qu'il a été... il a une histoire. Bon, j'ai cherché quand même à comprendre son histoire,
oui,
pour comprendre aussi son comportement. Et à partir de cela, ben, je me suis reconstruite. Donc, dire qu'il ne m'a pas respecté, je ne me permettrai pas. Parce que je pense qu'il y a eu des failles, des faiblesses chez lui. Après, vous savez, je ne reste pas à pleurer sur mes pots cassés, hein, j'avance. Sauf que en avançant à 50 ans, vous savez, je me demande ce que c'est, quoi.
Oui, moi je suis en train de me dire qu'il a quand même pas, pour revenir à cette notion de respect, il a pas respecté son rôle de père, il a pas assumé ce rôle de père.
Donc c'est un peu facile. Respecté. Il n'a pas assumé, il n'a pas assumé, mais vous savez, je pense que là, il peut avoir, on pourrait dire, la jeunesse, je sais pas ce que je pourrais trouver mille et une excuses. Hein.
Mais ça, c'est très bien, ça, c'est l'intellect qui réagit, et vous êtes très tolérante, et on sent qu'il y a beaucoup de... de recherche de compréhension des choses chez vous, mais votre partie émotionnelle, là, elle est en train de vous dire qu'il y a un problème. Vous faites des cauchemars, vous êtes secoué par ce qui se passe.
Oui.
C'est,
oui.
C'est qu'il y a quelque chose qui vous dérange au niveau des émotions.
C'est-à-dire que quand alors je vais en vacances, c'est très bien. Je le vois, c'est très bien. Sauf que je n'ai pas, dans mon enfance, j'ai dû vivre peut-être 2-3 mois avec lui. Mais je n'ai pas vécu, je ne peux pas dire que j'ai grandi avec. Vous voyez ?
Bien sûr.
Donc là, maintenant, j'ai 50 ans, dormir dans la même maison avec lui, ça me fera, je pense que c'est toute cette partie qui se remue chez moi.
C'est compliqué. Est-ce que vous pourriez envisager de lui dire on fait un juste milieu ? C'est-à-dire, ok, je t'accueille, on passe des moments ensemble, mais pas plus qu'une semaine, 2 semaines, un temps que vous définissez, vous ?
Ben, c'est quand il viendra que je vais définir cela. Vous savez, je me suis dit, bon, mais certainement, il a été peut-être conseillé par ses frères, donc aujourd'hui, ils font des tournées. Mais bon, je m'en sortirai. Mais c'est un peu... Hier soir, j'étais un peu... J'ai eu une nuit très, très agitée.
C'est compliqué pour vous parce que c'est encore un problème de place, en fait.
Comment ?
C'est encore un problème de place. Vous n'avez pas eu votre place en tant que petite fille par rapport à ce papa-là. Mmh. Et vous êtes reconstruite, vous avez trouvé votre place dans votre vie et cette place-là, il est en train de venir l'empiéter.
Surtout que je suis en train en ce moment de me dire que je fais un travail sur moi, je tourne le projecteur, j'aurai bientôt 50 ans, aujourd'hui rien ne vient m'embêter, enfin c'est un peu mon raisonnement du moment, hein. Et puis quand j'entends ça, ça me secoue. Alors je l'ai pris aussi de l'autre côté aussi. Vous savez, j'aime bien chercher le côté renverser les choses, hein, ne pas voir le négatif.
L'autre point de vue. Ben,
voilà, je me dis, bon, j'aurai bientôt 50 ans, bon, peut-être que c'est un cadeau de la vie, ouais. Après, je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être comme cadeau ? Vous savez, ça remue.
C'est pour ça que je vous conseille, Viviane, d'attendre qu'il soit là, de voir comment vous vous sentez, et de poser vos limites. Vous êtes adulte, vous êtes chez vous.
Tout à fait.
Donc vous posez vos propres limites, d'accord ?
Oui, tout à fait.
Ne vous laissez pas non plus dévorer, comme si vous n'en avez pas envie.
Oui, oui, oui. C'est assez dur parce que surtout il n'a pas beaucoup de moyens, moi je n'ai pas beaucoup de moyens, donc oula. Après vous savez, je me dis bon certains ça va abuser du système, moi je ça sera pas un abus, mais ben je vais lui demander d'aller vers le système aussi, hein. Moi je travaille.
Exactement.
Je ne suis pas à la retraite, hein. Mais je ne pensais pas vivre cela.
Et ça s'appelle vous respecter vous-même et c'est important.
Voilà.
Merci de votre appel, Viviane.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous.
Au revoir.
Au revoir. Bonsoir, Liliane.
Bonsoir, Caroline.
Ah non, je m'appelle Sabine, moi, si ça vous dérange pas.
Ah, Sabine. Oh là là, j'ai tellement eu l'habitude d'avoir des Carolines au bout du fil.
C'est pas grave, c'est un joli prénom.
C'est oh oui, très joli. Et surtout que je vous écoute, j'écoute Europe 1 depuis 2000.
Eh bien, dis donc, merci pour cette fidélité.
Alors, je crois que je suis une des plus anciennes auditrices.
Alors, pourquoi est-ce que vous m'appelez ce soir, Liliane ?
Alors, je vous appelle parce que j'ai un cafard énorme.
Ah.
Et je vais vous raconter l'histoire du début. Mm-hmm. Bon, c'est pas trop, trop triste, vous allez voir. Mais enfin, il y a de la tristesse parce qu'il y a des morts dans l'histoire. Voilà. En 2017, j'ai perdu mon fils, qui avait 48 ans, d'un arrêt cardiaque. Il était chez une amie. Bon, les pompiers sont venus le chercher, ils ont essayé de le ranimer, tout ça. Il a refait un arrêt cardiaque en arrivant aux soins intensifs, ils l'ont ranimé, tout ça. Enfin bon, tout ça a fait qu'ils ont perdu beaucoup de temps.
Et quand je suis allée le voir, ils m'ont dit qu'ils avaient fait des scans du cerveau et que c'était plat. Bon. Mmh. Alors, bon. Et puis la deuxième semaine, ils ont commencé à me dire « Oui, mais vous savez, il faudra envisager peut-être de l'arrêter. Est-ce que vous y avez déjà pensé ?» Alors, non, je n'ai pas pensé, mais maintenant que vous m'en parlez, je vais y penser. Mm-hmm. Voilà. Bon. Et puis, la troisième semaine, je vais le voir. Parce qu'il était à 7, et moi j'habite Béziers. J'ai 20 km à faire. Non, 50 km à faire. Mmh. Et alors, chaque fois, j'avais une personne qui m'emmenait parce que moi, j'étais un 36e dessous. Hein.
Mais j'imagine bien. Est-ce que vous arriviez à communiquer avec lui quand il était dans le coma? Est-ce que vous lui parliez?
Je lui parlais, mais je sais pas. Je lui parlais quand j'étais là-bas, quand j'allais le voir, je lui parlais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il s'était passé un événement avant qu'il décède, peut-être un an ou un an et demi avant. Et justement, on en a reparlé encore ce soir, c'était au sujet de l'affaire Lambert.
Oui, j'y pensais, bien sûr.
Et nous mangeons ensemble ce jour-là. Et il me dit, moi, je comprends pas. Il me dit que ce jeune, ses parents, ils ne le laissent pas partir. Il me dit, mais qu'est-ce que ça fait? C'est un légume. Il a dit, il souffre peut-être, on ne le sait pas. Il a dit, moi, je le laisserai partir. Voilà, il m'a dit, tu sais, maman, moi, si j'étais comme ça, je voudrais que tu me laisses partir. Mmh. Et par la même occasion, moi je lui dis, écoute, je vais te dire, moi mon fils, hein, j'ai 77 ans, si jamais, non même plus jeune, j'avais 75 ans à peu près, je lui dis, écoute, si jamais, parce que je conduis encore, si j'avais un accident de voiture, je ne voudrais surtout pas d'acharnement thérapeutique, pas à peine de rester comme,
Donc vous étiez en face, tu veux dire là-dessus?
Oui, on était en face, on parlait, et puis la conversion s'est arrêtée comme ça, quoi. On parlait, et puis voilà. Et 2 ans et demi ont passé, et voilà que je me voilà confrontée au problème. Mmh. Alors, il y a une dame, là, une doctoresse, qui était à cet hôpital, et qui me dit, oh, mais vous savez, il existe des lois. Si vous ne voulez pas vous décider, vous savez, madame, il me donne l'air de dire, on fera venir la justice, et puis voilà. Alors, je l'ai très mal pris. Et je me suis un peu disputée avec elle. J'ai dit, écoutez, madame, je n'ai pas dit docteur. J'ai dit, écoutez, madame, c'est mon fils. Alors, je vais vous dire, intellectuellement, je ne suis pas sotte. Et je sais très bien que je dois le laisser partir. Mmh. Mais mon cœur, c'est mon enfant, ne veut pas. Alors, vous attendrez encore quelques jours que je sois disposée. Et là-dessus, mon frère était venu m'accompagner et il a demandé à voir les docteurs. Et il est arrivé à faire rapatrier mon fils à l'hôpital de Béziers où j'habite. Et là, ça s'est passé le lendemain, ils ont l'emmené. Et là, j'ai pu aller le voir tous les jours. C'est bon, voilà. Je le serrais dans mes bras, et puis vous savez, quand on sait que quelqu'un va partir.
Vous avez commencé ce processus de deuil, oui.
Alors, l'hôpital, au bout de 2-3 jours qu'il était là, nous a convoqués. J'avais amené mon mari, parce qu'il avait 10 ans de plus que moi, j'avais amené mon mari ce jour-là, il avait vu, bon, on était assis à côté de lui, tout ça, le cajolet, et. Lorsque nous partions, il y a une infirmière qui nous a dit « Vous pouvez nous attendre dans le hall d'entrée, on voudrait vous parler. » Je lui ai dit « Oui, pas de problème. » Et alors, il y a deux docteurs et deux infirmières qui sont venus. Nous sommes rentrés dans un bureau et nous ont parlé, nous ont expliqué ce qui se passait et si on était d'accord. Elles nous ont encore posé une autre fois la question. Alors, mon mari a dit « Oui ». C'était son vœu, moi je dis oui. Et moi je dis c'est pareil, c'était son vœu, moi je dis oui. Mais je leur dis, moi je vais vous poser une condition. Alors il me dit, dites madame, si c'est faisable, on vous l'accorde. Et voilà, je voudrais assister. Je ne veux pas qu'il parte tout seul. Mm-hmm. Je veux être là pour lui tenir la main. Mm-hmm. D'accord, il me dit, d'accord. Bon, alors là c'était mardi. D'accord. Et puis alors, je suis allée le voir tous les jours. Et alors, ils m'ont dit, Le jour où on pourra le faire, un jour peut-être où ils n'auraient pas trop de travail, en fait, il m'a dit on vous appellera. Bon, j'allais le voir tous les jours parce que j'habite juste à côté de l'hôpital. Et le vendredi matin, je m'apprêtais à aller le voir, je reçois un coup de téléphone. C'est l'hôpital, oui, bonjour madame, voilà. Je venais vous dire, m'explique ce médecin, que nous débrancherions votre fils après-midi. Ou je lui dis, écoutez docteur, est-ce que vous auriez la gentillesse d'attendre 3 heures que je puisse arriver? Oui, 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 il m'a dit, pas de problème, prenez votre temps. Alors entre-temps, vite, je téléphone à une amie intime, qui est beaucoup plus jeune que moi, qui pourrait être ma fille, mais qui me soutient beaucoup, surtout dans cette épreuve. Et alors, je l'ai appelée, oui, elle lui dit, tu sortiras du travail, tu viendras de suite. Oui, parce qu'elle sort à 2h30. Parce que je lui dis, pour Arnaud, ça va se passer après-midi. Je serai là, j'ai rien à faire, elle m'a dit. Et elle arrive vers 2h30. À les bras dessus, les bras dessous, nous descendons à l'hôpital. En chemin, on rencontre une troisième amie qui adorait mon fils aussi. Oh, mais moi, je veux pas le laisser partir tout seul. Elle dit, elle aussi, allez, et nous y allons.
C'est une belle image de voir les trois amis comme ça qui vont vivre cette épreuve
nous
ensemble.
Voilà, nous partions là, vers le, comment on appelle ça, les soins intensifs, et voilà. Et voilà, bon, moi je pleurais, mais enfin bon. Et la solidarité des femmes, vous savez. Et voilà, nous sommes allés là-bas, on est allés le voir, on est resté avec lui. Restez avec eux, on viendra vous voir, nous ont dit les docteurs. Ils nous ont laissé au moins 20 minutes avec lui. Alors je le prenais dans mes bras, je l'embrassais, comme un bébé, vous savez, j'en profitais. Puis au bout de 3 quarts d'heure, les docteurs sont venus, on dit voilà. Il faudrait que vous alliez dans le couloir parce qu'on va le débrancher, on va lui enlever ce qui le fait respirer, vous savez. Alors, ils l'ont fait et puis ils m'ont fait rentrer tout de suite. Oh, ça a duré une minute, hein, même pas. Et là, j'ai pris mon fils dans mes bras parce que je savais qu'il n'en avait pas longtemps parce que sans respirateur, il allait mourir. Et j'ai pris mon fils dans mes bras, je le serrais, je le cajolais, j'ai écouté son petit cœur là qui ralentissait et qu'on entendait de moins en moins, vous savez, comme un petit animal. Moi, j'ai assisté au décès de ma petite chienne, c'était pareil. On a senti que le cœur partait. Et le docteur me dit, ça y est, c'est fini. Il le tape, ça y est, c'est fini. Il est parti. Et j'ai regardé au-dessus de moi, il y avait un écran, il y avait l'heure, et il y avait écrit 16h46. Vous voyez, et on lui avait débranché à 43. Il avait mis 3 minutes sans... Vous voyez, donc le cerveau ne travaillait pas du tout, quoi. Et voilà. Et là, ils nous ont laissé encore au moins 20 minutes. Et là, la cajoulée, elle s'est créée, elle embrassait. Voilà. Et après, ils sont venus nous dire, on va l'habiller. Alors, ils sont venus, ils l'ont habillé. Et puis, 10 minutes après, ils nous ont dit, ça y est, il est prêt, vous pouvez le voir. Alors, je l'ai vu... tout beau, dans sa belle chemise, j'avais choisi une belle chemise, une belle veste, vous voyez, il était tout beau, surtout qu'en plus il était très beau, mon fils, il était magnifique, c'était un blond aux yeux bleus, et alors il était très beau, j'avais mis ses plus beaux habits, et voilà, et après nous on dit voilà, maintenant, ça fait presque 3 heures qu'il est arrêté, il fait chaud dans les hôpitaux, c'était au mois de janvier. Et elle leur dit, on ne peut pas le garder, il faut le descendre au funérarium. Bon, ils l'ont descendu au funérarium, et puis nous ne sommes pas descendus, nous. Et mes trois amis, nous sommes remontés à la maison, on a dit, on y retournera le voir demain. Voilà, ça ne pressait pas. On en a bien profité, là. Et voilà. Et le lendemain, je suis allée voir avec mon frère, tout ça. Bon, puis après, il y a eu la séance des papiers, tout ça. Mais voilà. Et voilà. Et mon fils a été incinéré. Et j'ai pris l'urne chez moi parce que je voulais l'amener dans le caveau de ses grands-parents, très loin, à 70 km de chez moi. Mais quand je l'ai eu chez moi, c'était mon bébé qu'on m'avait rendu. J'avais cette impression, cette urne tous les soirs.
C'était une présence.
La prenais,
Je la prenais dans les bras et je lui parlais. Tous les soirs, je lui parlais. Tous les soirs, je lui racontais ma journée et tout, combien je l'aimais, tout. Et figurez, ça a duré ça, comme ça maintenant, ça a duré 2 ans. 2 ans, parce qu'au mois de janvier de cette année, c'est son papa qui est décédé. Le 5 janvier, lui, il était tombé dans le coma le 4, et son papa est décédé le 5 janvier. Je l'ai trouvé un soir en rentrant, tombé devant la télévision. Et c'est choquant, ça. C'est bon. Mais son papa avait 88 ans, et vous savez, c'était son âge. Bon. Et alors là, c'est pareil, je l'ai fait incinérer, et je l'ai emmené ici, chez moi. Et j'avais dit, dans quelques temps, je les amènerai tous les deux dans le caveau de famille. Mais c'était en hiver, en janvier, bon, j'ai laissé passer le temps, tout ça. Le printemps a été pluvieux, et puis, je sais pas, j'avais pas encore l'esprit, vous savez, prêt. Et puis là, il y a 3 semaines de ça, oh, j'ai téléphoné à ma belle-sœur. Je lui dis, renseigne-toi pour faire les démarches, pour faire ouvrir le caveau, tout ça. Et voilà. Et voilà. Et ça s'est fait hier. Et nous sommes partis avec mes 3 amis. Nous sommes allés au caveau, dans le village. Ma belle-sœur nous avait invités à manger. Elle a été très gentille alors qu'elle avait deux cancers, vous savez. Bon. Et voilà. Et dans le village, figurez-vous que ma belle-sœur avait fait presque du porte-à-porte. Elle était allée voir tous les gens qui avaient connu mon mari, enfant, adulte aussi, enfin des parents, des cousins, tout ça. Il y avait tous ses copains pour l'accompagner, sauf ceux qui étaient morts, bien sûr.
C'est votre histoire est triste, mais tellement belle.
Oui, tous ses copains. Et ces dames, moi, parce qu'à 40 ans, je m'étais séparée de mon mari. Alors, et puis depuis l'âge de 25 ans, j'y allais plus au village, mais c'est pas pour des questions de caractère, non. C'était pour des questions d'hygiène, parce que c'est un village très retiré, et chez ma belle-mère, il n'y avait pas l'hygiène, le tout à l'égout, tout ça. Et comme je venais d'avoir un bébé, je venais d'avoir mon fils.
Liliane, pardonnez-moi, c'est terrible. J'aimerais beaucoup poursuivre cette conversation, mais ouais. L'émission se termine. Est-ce que vous avez encore envie qu'on discute ensemble? Est-ce que vous êtes disponible demain soir?
Ah, si vous voulez, je vous raconte
la fin de l'histoire. Parce que là, je suis vraiment obligée de vous quitter maintenant, mais avec grand plaisir, je vous retrouve en ouverture d'émission demain, d'accord?
Oui, vous m'avez rappelé.
Oui, tout à fait. Hassan vous rappellera, et je serai ravie de reprendre cette conversation avec vous demain. Mais là, malheureusement, il faut vraiment qu'on se quitte.
Oui.
Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous retrouve demain soir avec grand plaisir.
Demain soir, voilà. J'aurai besoin de vous pour me conseiller.
Le rendez-vous est pris, Liliane, je vous promets. À demain. Merci à tous ceux d'avoir... tous ceux qui ont participé à l'émission, merci à tous ceux qui ont participé par SMS. Je vous retrouve demain soir avec le même plaisir à partir de 23h sur Europe 1. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous rappelle que dimanche soir, ce sera une spéciale animaux de compagnie. Vous pouvez déjà vous inscrire sur le mail libreantenne@europe1.fr. Bonne nuit sur Europe 1 en compagnie dans un instant de Pierre Bellemare et de ses histoires extraordinaires. À demain.